Nous accueillons Valérie maintenant au 39-21. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Valérie et quel âge avez-vous ?
De Pau, dans
de
le
Pau.
Sud-Ouest. Et...
D'accord.
Oui. Et j'ai 51 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, voilà. Valérie ?
Alors, je suis professeure en arrêt. et en fait, j'ai appelé l'autre soir, j'ai réagi, en fait, j'ai réagi à une phrase que vous avez dite à une de vos, des personnes qui étaient intervenues pour des problèmes qui n'avaient rien à voir avec le mien, mais vous lui avez dit à un moment donné, vous savez, ce sont des institutions contre lesquelles on peut difficilement faire quelque chose.
Oui.
Eh bien, oui, eh bien, c'est exactement l'impression que j'ai face à l'institution à laquelle j'appartiens. Voilà.
C'est-à-dire l'académie, l'académie dont vous dépendez.
Ou le ministère de l'Éducation nationale, hein, plus largement.
Oui.
Voilà, j'enseigne depuis 20 ans, c'est un choix. Vraiment, je suis venue à l'enseignement par choix personnel, par plaisir d'enseigner et d'être avec, en contact avec les enfants. Et nous sommes dans un système qui, pour la plupart, je pense que pour la plupart des professeurs, voilà, on a l'impression qu'on ne nous écoute pas, qu'on nous méprise et que voilà, tout ça est très compliqué. Ça va être très compliqué, voilà. Et là, je suis en arrêt de travail depuis 2 semaines.
Oui.
La première semaine, parce que le père de mon fils a été testé positif, donc j'étais qu'à contact. Donc, voilà, il fallait que je fasse le test. Et puis on a eu des informations... par rapport au protocole qu'on devait suivre. Enfin, des informations toujours variantes, aléatoires, voilà. Et ça a été un déclencheur, en fait. Ça a été un déclencheur assez compliqué pour moi.
Mais plus précisément, quel type d'informations ?
Alors d'abord, ça a commencé avec, bien sûr, le terrible... meurtre de Samuel Paty, déjà, ça c'était en amont.
Oui.
Puisqu'on nous avait donc consacré ou réservé ou accordé, disons, 2 heures de concertation ensemble pour toutes les équipes pédagogiques pour qu'on puisse se retrouver à la rentrée. Et ce qui a été annulé 2 jours avant la reprise des cours. Donc, je sais que dans le collège dans lequel je suis, on avait échangé beaucoup. Pour pouvoir proposer des échanges avec les élèves, mais des échanges communs, collégiaux, voilà. Et puis, donc, ça nous a été enlevé comme ça, voilà. Ça, par rapport au protocole, eh bien, en fait, la distanciation, il faut quand même savoir que dans les collèges, par exemple, enfin, moi j'appartiens à un collège où les élèves sont au nombre de 800 pratiquement. Voilà. Et le protocole que l'on essaie de respecter ne l'est absolument pas dans les cantines, par exemple. Donc on avait demandé à ce qu'il y ait plus de distanciation et ça n'a pas été écouté. Donc en fait, si vous voulez, on a sans arrêt des changements de protocole. Je ne sais même pas si on va parler de protocole, mais de directives à suivre, en nous laissant vraiment essayer de gérer tout ça. Voilà, ça a été c'est très compliqué. Alors mon message et mon discours est un peu confus, mais c'est vrai que c'est un ras-le-bol, quoi. Voilà. C'est un ras-le-bol général, mais qui n'est pas dû uniquement aux problèmes sanitaires. C'est quelque chose qui monte parmi nous, les enseignants, depuis quelques années. Voilà, depuis quelques années, parce qu'on essaie de poser des choses, on essaie de dire des choses sur un système qui ne fonctionne pas bien. On aimerait être entendu un peu parce qu'on est quand même sur le terrain. Et puis... Et puis on est, je pense qu'on est à même de pouvoir au moins proposer des pistes. Et voilà, on est jamais, 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 jamais entendu. Donc on n'a pas de retour surtout, on n'a pas de réponse, quoi. Donc c'est épuisant, voilà. C'est assez épuisant. Enfin moi, en tous les cas, j'avoue avoir ne plus sentir alignée et voilà.
Vous avez dit à Florian ou à Natacha que vous étiez systématiquement suspecté d'emblée.
Oui.
Oui. Mais suspecté de quoi en fait de...
Écoutez, on est suspecté de... Alors là, je parlais aussi pour moi, parce que le jour où, en fait, j'ai... Le lundi de la rentrée, j'ai donc averti mon établissement pour dire que je ne serais pas là. Et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je ne serais pas là, puisque le père de mon fils était... avait la Covid, il n'avait pas encore le résultat du test. Donc, voilà. J'ai envoyé donc également un mail pour expliquer tout ça. J'ai expliqué aussi que mon médecin traitant était absent parce qu'il était malade, donc j'ai dû attendre le lendemain pour avoir un rendez-vous avec un médecin de SOS Médecins. Voilà. Et j'ai reçu un mail du chef d'établissement, qui me disait être très étonné de ne pas avoir de mes nouvelles alors que j'avais appelé et que j'avais envoyé un mail et qu'elle ne comprenait pas mon silence. Voilà. Enfin, c'est ça. Après, on est suspecté aussi. On est suspecté, des parents peuvent appeler aussi. J'ai des collègues qui fumaient à l'extérieur du collège. Ils étaient deux, sans le masque. Et des parents ont appelé pour dénoncer ça, parce que ces personnes-là n'avaient pas le masque.
Oui, voilà. Enfin, elles ont parfaitement le droit de fumer à l'extérieur du collège sans masque.
Tout à fait, tout à fait. Et simplement, l'appel est reçu. Et l'information après transmise par mail... d'une manière très générale à l'ensemble de l'équipe pédagogique pour dire qu'il fallait
fumer avec un masque.
Mais bien évidemment.
Voilà. C'est dingue. On est quand même dans une société de délation.
Oui.
C'est assez incroyable. Oui. Hein. C'est peur. Ça. Ça fait peur.
C'est ça parce que je pense que sous couvert d'échanges ou de liberté d'expression, je pense qu'on est en train de confondre beaucoup de choses. Et les limites sont en train, certaines limites sont en train d'être transgressées, c'est quand même un gros problème. C'est un très gros problème. Et vous avez raison, c'est quand même assez angoissant. Alors, vous voyez, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression de quitter le navire à un moment où je ne devrais pas le faire. Mais j'avoue que tout ça me pose beaucoup de questions philosophiques. Je pourrais y aller. Je crois que je pourrais y aller. Je lui dis bien, je crois. Mais à quel prix ? Je pourrais retourner en face des enfants qui me manquent. Ces élèves qui me manquent et j'aime mon métier. C'est pas du tout ça le cœur du problème. C'est vraiment toute l'institution. Et je crois que ce n'est malheureusement... pas la seule, je pense que c'est un fonctionnement. En fait, on fonctionne comme des entreprises autres. Voilà, on est géré comme des entreprises autres, alors qu'on a quand même essentiellement affaire à de l'humain. Et pas uniquement depuis le confinement, enfin depuis le problème du Covid, mais je vous assure qu'on est vraiment loin d'avoir la possibilité de travailler correctement avec les élèves. Voilà. Et je pense qu'en fait, j'ai eu un déclic, tout est remonté d'un coup, et je me suis vraiment posé la question de comment peux-tu enseigner ? Comment est-ce que je peux être en cohérence avec ce que je veux faire passer ? Si on ne me donne pas les moyens et si surtout on laisse en intrusion, effectivement, comme vous le dites, des comportements ou des réactions comme ça absolument horribles,
ou
terrifiantes.
Moi, je ne suis pas professeur, mais je me mets à votre place. Si à un moment, on ne fait plus son métier, on ne fait plus son métier et en sécurité et en pleine adéquation hein, avec ce en quoi on croit, ce pourquoi on le fait, ce métier. Bien, vous parliez de que vous ne sentiez plus aligné et c'est de ça dont on parle. C'est toute la difficulté de continuer à faire un métier où on ne se sent plus. Moi, en plus, il y a vraiment un aspect vocation dans votre métier parce que moi, quand je mets, vous voyez, je vais de temps en temps dans des classes pour parler du métier que je fais. Je peux vous dire qu'à chaque fois, la réflexion que je me fais, c'est waouh. La vocation pour faire ce métier, parce que moi je ne supporte pas, je ne supporterai pas ça au quotidien. C'est une vocation, c'est vraiment l'envie d'apprendre aux enfants ou aux collégiens, hein. Et puis les plus grands même. Enfin, les plus grands sont un peu plus calmes normalement. Mais et donc du coup, je pense qu'il faut vraiment que cette vocation elle soit. Protégé et comment intact pour continuer bien à faire son travail. Si on la perd, ça peut vite tourner au cauchemar, l'histoire.
Oui, après, je l'ai encore, cette envie d'enseigner. Enfin, elle est quelque part par là, alors, je ne sais pas, et peut-être que... Mais vraiment, j'ai besoin de ce temps de pause pour être honnête avec moi, avec ce métier-là, si je décide de le poursuivre. Après, j'ai 51 ans, c'est pas simple non plus. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je pourrais ou ce que je pourrais faire d'autre. Hein. Mais je ne peux pas y aller en étant un robot ou en étant purement mécanique. Ce n'est pas possible. Et surtout en obéissant à des... Enfin, on nous demande de faire des choses absolument, absolument absurdes. Je vous donne un exemple. Hein. En début d'année, on a eu, alors c'était une nouveauté, on a dû faire passer un test de fluence de lecture aux élèves de 6e. C'est-à-dire la rapidité de lecture. Donc, tous les élèves de 6e de la France entière ont eu le même texte à lire. Et... Alors déjà, en tant que professeur de français, moi c'est quelque chose, enfin j'évalue la lecture, mais sans dire aux enfants, tu vas lire le plus vite possible. J'évalue la lecture à différents moments, discrètement, je note, voilà, des points de fonctionnement, de dysfonctionnement, mais que je garde pour moi pour voir comment après je peux l'améliorer. Là en fait, on devait faire lire le même texte à chaque élève, mais chronométré, c'est-à-dire qu'il devait lire le plus de mots possible en une minute. Voilà. Déjà, je trouve ça, mais... Alors, je brise le droit de réserve, mais tant pis. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça anti-pédagogique au possible. Je trouve que ça n'a pas de sens, parce que peu importe les liaisons, peu importe l'intonation, peu importe la compréhension. Et en plus, les élèves dyslexiques que l'on a aussi en cours avaient le même texte à lire. Et là, moi, j'ai vu des enfants... qui étaient mais paniqués, pétrifiés, qui étaient en pleurs. C'était... Enfin, et on est obligé de le faire. Même si ça nous paraît aberrant, on est obligé de le faire. Voilà. Et les résultats ont été tellement mauvais qu'ils ont été conservés dans un endroit et les familles ne sont pas au courant. Donc, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne nous a pas concertés non plus. Et on a des choses absurdes telles que celle-là appliquée. Bon, des exemples comme ça, j'en ai d'autres, hein. Mais je ne vais pas tous les énumérer. Mais c'est un amoncellement de... Si vous voulez, je pense que l'enseignement, c'est un métier magnifique. Vous parliez de... vocation, mais je pense que votre métier aussi, c'est une vocation, médecin, ou beaucoup d'autres métiers sont des vocations aussi. Vraiment. Mais quand on sent qu'on est fait pour un métier, eh bien on y va, quoi. On y va avec le cœur et on y va avec toute notre âme. Mais là, le bateau, je reprends l'image, hein, dans lequel je suis, il prend l'eau de plein de parts, mais depuis des années. Et pour seule réponse, ce ne sont pas des échanges qu'on nous propose. Ce ne sont pas des discussions, mais au lieu de réparer, on met un petit peu de papier peint, ou on met des belles litotes ou des jolis mots, et puis ou des propositions comme ça qui nous tombent dessus, et puis tout ira mieux. Ben non. Non. Les élèves ne vont pas bien, alors maintenant encore moins. Moi, j'ai eu des collègues au téléphone, c'est quand même très compliqué. Même depuis le mois de septembre, hein, c'est compliqué. Voilà. Il y a quand même une perte de sens et d'envie d'apprendre pour les enfants aussi. Parce qu'on nous impose des programmes qui changent aussi tellement souvent que ben, nous-mêmes, on met du temps quand même à digérer des choses aussi, puis à pouvoir préparer des cours cohérents et puis des progressions cohérentes, voilà. Donc ça change tout le temps, donc c'est quand même compliqué de s'adapter. Pour les enfants encore plus. On nous parle d'école de la confiance. À quel moment fait-on confiance déjà à ceux qui sont censés mener un petit peu la barque, c'est-à-dire nous, les profs, et puis pour pouvoir la transmettre aux enfants. Les enfants ne sont pas dupes, hein. Ils ne sont pas plus idiots qu'avant, pas du tout. Mais il y a un mal-être, il y a quelque chose qu'on ressent au niveau des enfants. Voilà, et c'est pour ça que je vous ai appelé. C'est parce que j'ai plus envie de simplement m'insurger une journée en faisant grève, ou parce que dans tous les cas, c'est pas entendu, donc... Alors, je ne sais pas, ma position est juste là. Enfin, non, c'est pas juste la mienne, parce qu'on est beaucoup, beaucoup à le penser ainsi. Mais je sais que j'ai besoin de prendre du recul et de me poser pour savoir si je veux continuer dans ce système-là. Peut-être en m'affirmant d'une autre manière, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou si je n'y retourne pas, parce que ça n'est plus cohérent.
Et vous, et vous avez combien de temps pour vous retourner, là? Vous vous donnez combien de temps?
Mais normalement, je reprends lundi. Mon médecin voulait m'arrêter parce que j'ai quand même beaucoup. Ça m'a beaucoup affectée, tout ça. Enfin, je suis émotionnellement et intellectuellement un peu perdue. Il voulait m'arrêter un mois. J'ai pas voulu parce que j'ai l'impression de laisser tomber. Donc normalement, je reprends lundi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autre réponse. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je suis partagée entre l'envie de revoir mes élèves et de participer à cette énergie commune que l'on a aussi avec mes collègues. Et à la fois, j'ai l'impression aussi de dire oui et de fonctionner dans quelque chose qui n'a pas suffisamment de sens. Il y a des choses bien, je ne vais pas non plus tout critiquer, mais qui n'a pas suffisamment de sens. Et le problème, c'est qu'on perd les jeunes, là. On est en train de les perdre. C'est ça, le problème. Moi, c'est ça qui me fait mal. Voilà. Et c'est terrible, parce qu'on va se réveiller trop tard. Et je vous assure que je suis quelqu'un d'assez joyeux, a priori, et d'optimiste, et que j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Mais il y a une lucidité, quelque chose qui est en train de remonter, là, ou de monter en moi, parce que j'observe, parce que je vois, et que on ne forme pas les enfants. On ne les aide pas. Voilà. Et il faudrait changer. Ça a pris... Bon, c'est moi qui vais les changer, mais... voilà.
Écoutez, en tout cas, votre appel est entendu. C'est un témoignage fort que vous nous avez livré ce soir. Et je pense qu'il y a pas mal d'enseignants qui écoutent cette libre antenne et que cela doit toucher... voilà. Je pense que il se retrouve dans votre témoignage, Valérie. Je ne sais que rajouter que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il va falloir. Enfin, voilà, vous savez que vous attendre à plus de souplesse de cette grande. Comment on dit, l'académie, en tout cas l'éducation nationale,
oui.
Ça a toujours été très rigide. Et c'est pas parti pour s'arranger. Donc.
Je sais.
Je suis pas certain que, bon, voilà. J'espère pour vous, en tout cas, que vous trouverez un peu de paix dans votre réflexion et que ça vous permettra de retourner, en tout cas, en classe avec un peu plus de sérénité. Voilà.
Oui. J'espère aussi, mais mais je voulais témoigner aussi parce que je sais que beaucoup d'enseignants, quels que soient les niveaux, hein, à l'université aussi ou d'autres, au lycée ou à l'école aussi, beaucoup vivent ça. Et effectivement, je ne suis pas sûre qu'on sera davantage entendu, mais il faut dire dans tous les cas. Mmh. Il faut dire les choses et puis partager. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment.
Je vous en prie.
Pour votre écoute.
Merci
et
à
votre
vous.
Échange.
Merci Valérie et bon courage
Merci
à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.